Bienvenue à cette soirée. Je tenais à vous présenter donc nos trois témoins intervenants. Donc Michèle Battani, qui est présidente de InCoach, qui est coach certifié, coach interne chez Carglass. InCoach, c'est une association de 70 membres, 70 entreprises qui ont justement eu l'idée de se rassembler à travers une association qui regroupe 90 membres. Valérie Laudré, qui est coach interne chez Orange, coach certifié également. Et puis Bernard Dubois, qui est coach certifié et qui est responsable du coaching, du pôle coaching individuel à la SNCF. Donc juste un petit mot avant d'entrer dans les différentes étapes de cette soirée. Donc c'est une soirée que l'on veut conviviale et participative, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des différents témoignages et présentations. Donc je suis Nathalie Sarpossian, je suis la responsable de l'école IFOD. IFOD qui est une école qui existe depuis 27 ans et qui forme au métier du coaching et de l'accompagnement. Nous proposons deux grands types de formations, une formation au métier de coach individuel et au coach d'équipe, également des formations à ce que l'on appelle des compétences de coach, qui est d'utiliser des techniques de coaching pour accompagner les individus et les équipes, pour des managers, pour des RH, dans un objectif de développer des soft skills. Donc c'est aussi une approche modulable et qui est certifiante. Nos deux formations sont certifiantes au CNCP. Nous proposerons également des formations complémentaires, notamment à travers des formations comme le co-développement, les pratiques narratives ou le hors-season coaching. J'espère que je le prononce bien. Mais on est vraiment dans une logique de favoriser le développement de compétences dans un objectif de développement professionnel. C'est important, cette notion de développement professionnel, parce que si on lance cette soirée ce soir, c'est un premier événement parmi un certain nombre de soirées que l'on va répéter tout au long des prochains mois, au sujet des débouchés professionnels et de l'employabilité liée au métier de coach. Évidemment, nous sommes convaincus de l'importance, de l'intérêt, du besoin de travailler de ses compétences dans cet univers professionnel. Et donc ce soir, je propose à nos témoins de participer avec nous, d'échanger avec nous, de partager à la fois leur expérience, leur expertise sur ce sujet du coaching interne. Alors le coaching interne, c'est une activité, c'est une fonction, c'est un rôle qui s'est beaucoup développé en entreprise ces dernières années et a pris de plus en plus de poids. Michèle me disait que les coachs anglo-saxons, coachs internes anglo-saxons, sont vraiment devenus de plus en plus présents en entreprise et ont une véritable place, un rôle important dans le développement des managers, mais aussi des collaborateurs, mais aussi de faire évoluer des organisations. L'intérêt du coaching interne, c'est évidemment de travailler aussi une culture, c'est de travailler sur une organisation, c'est de commencer à travailler un maillage à travers un réseau, une notion de communauté qui a un sens, qui en tout cas prend de plus en plus de place dans le mode de fonctionnement des entreprises et des collaborateurs dans l'entreprise. Alors je vais passer la parole à Michèle sur le sujet qui nous intéresse ce soir, qui est celui de comment ça fonctionne dans ton entreprise, Michèle? Quelle est la fonction de coach interne? Et si tu peux nous expliquer quel type de compétences, même d'appétences, sont attendues pour justement cette fonction de coach interne dans l'entreprise.
Merci de m'accueillir. Je suis très honorée d'être là et puis j'ai été ravie de te rencontrer en préparant cette soirée. Michèle Battani, je suis coach interne depuis 10 ans dans une entreprise que probablement beaucoup d'entre vous connaissent un peu, à savoir Carglass. Et je suis coach tout court depuis, j'ai été formée en 2001. Donc pendant presque 10 ans, je n'étais que coach externe. Et il y a 10 ans, je suis devenue coach interne 3 jours par semaine chez Carglass. Et je suis toujours coach externe 2 jours par semaine. Alors, vous parlez de l'expérience Carglass. C'était un choix du comme dire, d'embaucher des coachs, ce qui facilite énormément le travail des coachs internes. C'est-à-dire que nous étions portés, notre action était portée au plus haut niveau, ce qui n'est pas le cas de tous les coachs internes en tout cas de France et tout au moins de l'association dans laquelle que j'ai l'honneur de présider et qui sont venus témoigner notamment dans les livres que nous avons publiés. Et donc pour ma part, on a eu cette chance-là d'être porté par le Comdir. Et donc nous sommes entrés, nous sommes deux pour un temps complet. Donc mon confrère Jean-Luc Ada qui a pris sa retraite il y a 3 ans a travaillé aussi donc chez Carglass avec moi. Et nous y sommes arrivés un 10 février et le 11 mars on était en Comdir, on leur expliquait ce qu'était le coaching parce qu'ils savaient qu'ils en avaient besoin mais ne savaient pas forcément exactement comment ça fonctionnait, ils doutaient qu'on était un peu à part. Et ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne et ce qu'il fallait faire pour que ça ne fonctionne pas. Et ils ont joué le jeu dès le départ, ils ont été très corrects avec nous. Ils nous ont donné un espace pour pouvoir recevoir des coachés. Ils nous ont donné, ils ont écouté nos demandes, notre demande de cadre, de process. Ils ont été vraiment très, très corrects avec nous et nous n'avons pas du tout, nous avons eu cette chance d'être extrêmement respectés dans notre métier. Nous sommes directement reliés au DRH et depuis notre arrivée, il y a eu 3 DRH et à chaque fois, parce que c'est porté vraiment au plus haut niveau, à chaque fois nous sommes extrêmement respectés dans notre activité et nous on nous fait extrêmement confiance. Imaginez que aujourd'hui notre manager Stéphanie Fallas, donc la DRH depuis 2 ans je crois maintenant, presque 3, elle ne veut même pas savoir avec qui on travaille dans l'entreprise, hein. Elle nous fait confiance, elle veut juste savoir combien de personnes nous accompagnons, si on a des difficultés spécifiques, si on a des signaux faibles à partager également, ça l'intéresse énormément. Et donc nous sommes très autonomes dans notre activité qui s'est beaucoup diversifiée. Au début c'était que du coaching à haut niveau chez nous. On est une petite entreprise, on est 3000, hein, donc c'est pas Orange, c'est pas la SNCF, on est vraiment une petite structure. Et nous avons commencé par les N-1 comme dire, et puis au bout de 3 ans, quand on avait fait le tour, quand l'image du coaching était bien implantée de manière très positive, le coaching a été proposé à tous les salariés de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous accompagnons des personnes qui ne sont pas managers, nous accompagnons des personnes qui sont managers de proximité, mais c'est-à-dire des responsables de centre Carglass, donc ils peuvent avoir 5, 6, 10 collaborateurs dans leur équipe. Et nous avons donc un panel très large. Et avant d'être embauchés chez Carglass, on a eu un entretien, donc Jean-Luc et moi, avec Éric Girard, qui est le manager, le patron de l'entreprise, et qui disait... Moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous connaissiez l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il voulait des gens en interne, qui connaissent rapidement la culture d'entreprise, que vous fassiez gagner du temps aux personnes. Et puis, ce que j'attends de vous également, c'est que vous soyez à l'extérieur aussi. Il ne voulait pas qu'on soit que à l'intérieur. Et que l'on construise une réputation nickel au niveau du coaching. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas entendre des choses comme quoi on ne respectait pas notre déontologie, on n'était pas discret. Il voulait vraiment mettre à disposition des collaborateurs un outil qui leur permette de grandir en toute confiance et de se développer en toute confiance. Bon, pour l'instant, jusqu'à présent, le cadre ayant été respecté, et nous sommes très très vigilants à ce cadre, et les process également, on est très heureux. Et d'ailleurs, quand Jean-Luc Ada a pris sa retraite, ils nous ont demandé de choisir, de faire une présélection de successeurs. Et donc depuis 3 ans, nous avons un successeur qui travaille avec moi, qui s'appelle Stéphane Dandré, donc il est là 2 jours par semaine. Et ce que j'ai noté de très particulier, c'est qu'il y a 10 ans, ils ont mis 1 an et demi à nous trouver. Ils sont passés par une chasse de tête, hein, parce qu'aucun coach externe ne voulait devenir coach interne. Parce que ça paye évidemment beaucoup moins que l'externe, ce n'est pas du tout les mêmes types de revenus qu'en externe. Et donc à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui était prêt à faire le sacrifice, entre guillemets. Et puis également, les coachs externes n'avaient pas envie de s'inféoder, de devenir salarié, donc de devenir éventuellement dépendant de désirata, de manager. Et aujourd'hui, donc il y a 3 ans, quand on recherchait un successeur à Jean-Luc, on est simplement passé par notre réseau, donc on n'a pas eu besoin de passer par une chasse de tête, et on a eu 30 ou 35, je ne sais plus, réponses assez rapidement. Donc le marché a changé, c'est-à-dire que les coachs externes aujourd'hui sont intéressés par le coaching en interne pour des tas de raisons qui leur appartiennent et que je comprends parfaitement personnellement après 10 années d'expérience de coaching interne, qui est pour moi un métier absolument fabuleux et qui nous oblige à être encore plus exigeants envers nous-mêmes qu'en externe, parce que je suis les deux, hein. Je peux vous dire qu'en externe, je peux avoir des moments où je me relâche, en interne, je ne me relâche pas souvent. parce qu'on est porteur d'une réputation, surtout dans une structure qui est d'une taille assez modeste. Tu me disais les appétences. Alors, déjà, pour être coach interne, il y a cette appétence à être dans une entreprise, hein, et que tout le monde n'a pas. Moi, j'ai quitté l'entreprise parce que j'ai vécu une expérience un peu difficile lorsque j'étais directrice commerciale. Donc, j'ai fait un parcours de commerciale puis de directrice commerciale pendant une dizaine d'années. Et l'expérience que j'ai vécue comme directrice commerciale m'a un peu échaudée sur le fait d'être salariée. Et c'est aussi ça qui m'a poussée à me mettre à mon compte. Et à l'époque, je me disais, non, je suis tellement bien. Et c'est vrai que j'étais bien à mon compte, hein, parce que c'était des belles années, c'était vraiment très agréable. Et mais il y a eu un moment où ça m'a manqué. Donc il faut avoir l'appétence de l'entreprise, des collaborateurs, d'avoir un patron qui vous dit peut-être des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, ou qui vous demande des choses que vous n'avez peut-être pas envie de faire, je ne sais pas, ça peut arriver. Donc il faut cette appétence-là. Et puis il faut avoir toutes les caractéristiques d'un coach externe, c'est-à-dire nous avons un niveau d'exigence au niveau de l'association qui est un peu spécifique quand même, parce qu'on demande à ce que la personne soit bien sûr coach, mais aussi qu'elle est en interne un sponsor, au moins parce que le coaching interne ne se développera pas s'il n'y a pas un sponsor, et puis également qu'elle a fait un travail sur elle. Donc on estime que le coach interne doit être encore plus professionnel que le coach externe, qui déjà doit l'être beaucoup, hein, parce qu'on peut être sujet de plein de transferts, instrumentalisation, enfin plein de choses. Et un travail sur soi est absolument indispensable. Et donc l'appétence, c'est l'entreprise, l'appétence, c'est travailler sur soi encore plus, et l'appétence, c'est d'être encore plus exigeant envers soi-même, avoir un vrai regard sur soi profond et peut-être assez constant, en fait.
Donc Valérie Laudret, donc moi j'exerce au sein d'un grand groupe qui s'appelle donc Orange, au sein d'une équipe de coach interne que nous avons mise en place en 2009 en mode expérimental pendant un an, donc sur l'initiative, donc voilà, on était deux, trois par rapport à cette initiative, en réponse puisque moi on était dans la fonction RH, et en réponse aux besoins qu'on ressentait des cadres dirigeants, gérants des grosses unités opérationnelles, d'avoir un accompagnement très personnalisé, très spécifique, répondant à la fois souvent ce qui revenait, qui était l'isolement, la solitude du directeur, du manager, pouvoir les aider dans leur développement personnel, dans leurs aptitudes personnelles au travail. Et donc, il fallait leur proposer quelque chose de très personnalisé. Et donc, on a proposé ce projet à l'époque à la direction du talent management de l'entreprise qui dit, bon ben, go, en mode expérimental pendant un an. Et puis, ça s'est transformé. Et donc, depuis 2009, nous sommes une équipe qui a grossi aujourd'hui, mais qui n'a pas vocation à grossir plus, puisque effectivement, on ne pourrait pas coacher tous les salariés d'Orange chez nous. Ou alors, ça coûterait un peu trop cher à l'entreprise. Donc, on s'adresse essentiellement à la population des cadres supérieurs, hors exécutif, parce que nous sommes au sein de l'entreprise et nous-mêmes, on ne souhaite pas aller coacher Stéphane Richard, enfin je veux dire, voilà. Donc ces niveaux de responsabilité dans l'entreprise, hein, le COMEX, et ils font appel au coaching externe. Et ça, c'est un vrai partenariat que nous avons entre coach interne et coach externe. Nous pilotons aujourd'hui le référencement des coachs externes, puisque nous avons, au-delà de notre rôle de coach interne, un rôle de garant des pratiques de coaching au sein de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes. Donc nous avons mis en place une politique de coaching, nous avons dans lequel justement ce cadre que tu as expliqué, qui est très important et qui permet de sécuriser cette pratique de coaching. Savoir que Orange avait déjà eu des personnes qui s'étaient formées un peu partout comme ça, puis qui faisaient du coaching suite à leur formation. Et puis, à un moment donné, la direction avait un peu mis un holà à ces pratiques parce qu'elle ne maîtrisait pas la sécurité de ces pratiques. Et nous, quand on a fait cette proposition, on arrivait à point nommé, en fait, pour dire, ben voilà, non seulement on vous propose une offre de coaching répondant à tel besoin pour l'entreprise, pour accompagner la transformation du groupe et les managers qui eux-mêmes font cet accompagnement de la transformation, mais aussi d'apporter un cadre qui va sécuriser ces pratiques. Donc dans notre politique de coaching, il y a à la fois les conditions d'exercice de la fonction en termes de compétences, en termes de code de déontologie, en termes de supervision des coachs, et puis en termes de, à la fois de formation, donc certification à une école de coaching référencée et que nous validons, parce que c'est vrai que dans les écoles, il y en a plein. Donc c'est une première étape. Et puis une accréditation dans une des trois associations qui délivrent ces accréditations, hein, soit EMCC, ICF et SF Coach. Voilà. Donc ça nous permet, nous on sait très bien qu'avec les référentiels de compétences de ces accréditations des associations professionnelles, on couvre l'ensemble du scope qui nous semble important, hein, la conscience de soi, hein, tu en as parlé par ce travail sur soi, mais la capacité, l'appétence aussi à avoir une relation qui permet de faire avancer la personne. Voilà. Et toutes ces compétences, et dans ce référentiel de compétences, je ne vais pas toutes les passer là parce qu'on n'est pas sur un cours de des référentiels de compétences de ces assos, mais nous, ça nous semblait important que ce soit partagé au plus haut niveau de l'entreprise dans cette politique de coaching que l'on a proposée à la DRH France et qui a signé et elle-même porté cette politique auprès de l'ensemble des acteurs, directeurs de division, d'unité opérationnelle et DRH. Alors aujourd'hui, on est 8 coachs. Donc c'est notre activité à plein temps. Alors quand je dis à plein temps, pas tout à fait, puisque nous animons par ailleurs, donc en termes d'élargissement des compétences, du co-développement, c'est-à-dire qu'on diversifie aussi en fonction des besoins de l'entreprise sur d'autres modes d'accompagnement qui peuvent être le co-développement, mais aussi des ateliers de développement personnel que nous animons, ce que l'on dit en mode coaching, c'est-à-dire très expérientiel, petit nombre, hein, c'est 6 participants, 8 max, pour pouvoir faire ce travail. Et ces ateliers sont la plupart du temps en relais ou inclus dans une démarche de coaching individuel pour la personne, avec un contrat de coaching, des objectifs bien clairs et des indicateurs définis en tripartite avec le coach, le coaché et son manager. Voilà, on accompagne entre 300 et 400 personnes par an. Nous avons également mis en place un réseau de coachs en province, puisque c'est vrai que les 8, là on est à Paris. Alors, l'essentiel quand même de nos cadres sup sont à Paris, donc c'est un peu logique. Mais il y en a quand même en province aussi. Donc jusqu'à présent, et c'est vrai qu'ils se déplacent beaucoup, c'est eux qui viennent nous voir. Mais nous avons mis en place des relais sur chaque grande région quand c'est faisable, parce qu'il est important de veiller à la consanguinité. C'est dans une entreprise comme la nôtre, le turnover est faible, donc tout le monde finit par bien se connaître, et donc c'est difficile d'être coaché par quelqu'un qu'on a connu dans une ancienne vie. Alors nous, ça c'est un truc très important, c'est pour ça qu'en étant 8, on arrive, on analyse les demandes qui nous arrivent en coaching, on se dit, ah non, lui, je connais, maintenant je coach son N-1, ou j'ai coaché son N+1, donc pour l'instant, on arrive à s'organiser, et quand on n'y arrive pas, que vraiment c'est une personne qui est connue de tout le monde, en général c'est quelqu'un qui est de la fonction RH ou... En fait, tous les coachs disent, ben non, là, la neutralité, la ça va être difficile, même dans la relation. À ce moment-là, effectivement, on fait appel au coach externe pour ces cas spécifiques. Voilà.
Bonsoir. Avant de vous parler du coaching SNCF, j'aurais envie quand même qu'on se donne quelques repères sur le coaching d'entreprise. Quelle est sa place aujourd'hui ? Après, on parlera sans doute de l'évolution du métier, mais aujourd'hui, dans ce qui existe, on a, si on prend une réglette, à une extrémité, nous aurons des entreprises assez rares qui font du coaching un levier stratégique. Ils en font leur stratégie pour transformer l'entreprise, pour créer une nouvelle culture, pour transformer. Donc là, on voit que le coaching occupe une place centrale et, quelque part, la modalité rejoint la finalité. Et à l'autre extrême, nous aurons les entreprises qui font du cosmétique, c'est-à-dire que le coaching est un moyen de se substituer ou de compléter une formation pour développer une compétence que l'on souhaite favoriser au sein d'un groupe. Et entre les deux, nous avons une marge de manœuvre qui fait que le coach sera plus ou moins au service de but ou bien plus ou moins au service du développement et de la transformation. À la SNCF, on est plutôt sur un coaching qui, dans la place, a pour objectif de permettre à des personnes de se saisir d'un espace qui leur est propre, avec des objectifs qu'ils se donnent eux-mêmes, mais qui sont au service de la performance, puisqu'il y a des modalités à travers le tripartite ou autre qui permettent de s'assurer que ce que l'on fait avec un client coaché est quand même en accord avec les besoins d'entreprise. Mais il n'y a pas de résultat assigné au coaching. Donc pour moi, c'est un critère qui pour moi est sine qua non de la pratique, mais qui ailleurs se fait autrement. Donc on a un coaching qui est plutôt au service de la transformation, qui n'est pas au service d'une stratégie, j'espère que ça évoluera, en tout cas qui permet de créer des espaces où la relation coach-coaché et entreprise permet de développer des compétences au service de la performance et qui parfois transforme aussi l'entreprise de l'intérieur par le système que l'on fait avec le client ou par des actions qui se développent autour, coaching d'équipe, etc. Donc on est plutôt sur une place voilà, qui est plutôt centrale. Si on regarde un petit peu l'historique du coaching à la SNCF, et c'est souvent comme ça que ça se passe quand le coaching est introduit dans les entreprises, ce sont des coachs qui venaient de l'extérieur ou qui se sont formés par eux-mêmes, qui ont trouvé une place singulière à proximité de dirigeants et qui ont pu exercer, parce qu'ils étaient tolérés, du coaching. Jusqu'à ce que l'organisation se saisisse de ça en disant ben, finalement, si ça marche pour moi, je deviens sponsor et je dis on va mettre ça en place. Et pour nous, ça a été Louis Gallois, ça a été Monique Fournier-Laurent qui ont été des vecteurs qui ont mis en place, structuré, organisé. Et comme nous sommes à la SNCF, nous avons processé et structuré tout ça de façon assez organisée. Hein. On sait faire ça. Donc avec les documents qui vont avec. Donc on a eu un processus très structuré qui s'est mis en place assez vite, mais qui posait ce cadre du coaching et qu'on a su faire vivre. Il y a une époque où des personnes qui voulaient peser fort sur la stratégie et transformer la culture en disant, voilà, nous avons une entreprise industrielle avec un côté institutionnel et nous voulons développer une culture de résultats. Parce que c'était l'arrivée de la concurrence, la gestion par activité, le cap client. Et ces personnes ont considéré que les coachs internes n'étaient pas à même d'accompagner cette transformation. Et donc, on choisit de se focaliser sur les cadres supérieurs et cadres dirigeants et de réserver le coaching à des coachs externes. Les coachs internes qui étaient là ont survécu, ont pu par endroits continuer à pratiquer, à distiller, à préserver le cadre, jusqu'à ce que tel le phénix qui renaisse de ses cendres, il y a quelques années, il a été décidé de remettre en place une politique de coaching, en tout cas de remettre en place des coachs internes et un cadre de coaching. Ce processus s'est développé et nous avons aujourd'hui 44 coachs internes, mais qui sont des coachs chez nous à temps partiel. Donc les 44 coachs internes font à peu près autant de coaching que les 8 coachs de chez Orange. Mais la chance que l'on a dans le contexte qui est le nôtre, c'est qu'ils n'apparaissent pas à ce qu'on appelle le cadre d'organisation, donc ils n'apparaissent pas comme étant des effectifs dédiés au coaching, puisqu'ils sont à temps partiel. Ils sont presque à temps masqué, c'est presque des clandestins. C'est-à-dire qu'ils ont une mission à 80% ou 90% qui est une mission principale, le plus souvent qui est quand même liée à la transformation, à l'accompagnement du changement, à des fonctions support, fonctions RH ou autres, mais qui parfois sont des fonctions liées à des dimensions opérationnelles ou dans d'autres secteurs plus classiques. Et dans un cadre bien défini, ils exercent des missions de coaching. Et ils le font en dehors de leur périmètre et avec des personnes pour lesquelles il n'y a pas de lien hiérarchique ou fonctionnel possible. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai engagement, parce qu'ils ont déjà un autre métier. Ils ont déjà une mission qui les occupe et qui aujourd'hui fait que souvent ils cumulent des casquettes. Donc qu'est-ce qu'ils viennent chercher, hein, si on regarde l'appétence, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le coaching qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Si j'osais, je dirais que c'est peut-être là la raison d'être aussi du coaching. Dans une société où effectivement on arrive à industrialiser tous les process, où on arrive à digitaliser bon nombre de fonctions, qu'est-ce qui va rester de spécifique qui fait qu'une personne va pouvoir trouver là ce qu'elle ne trouve pas ailleurs? C'est la dimension humaine. Certes, les coachs, comme les psychologues à l'université, ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin de travailler. Donc ils viennent travailler pour eux. Ils viennent se développer. Ils viennent faire ce travail sur eux-mêmes. Ils viennent apprendre à développer de nouvelles compétences, de nouvelles façons de voir le monde et d'agir dans le monde. Mais ils viennent aussi chercher cette dimension humaine. Et la relation de coaching à ceci de spécifique, c'est qu'elle permet, par cette expérience, dans cet espace protégé, avec ce cadre, avec cette relation contractuelle, avec cette neutralité, cette confidentialité, elle vient, ils trouvent là quelque chose qui permet d'avoir une vraie relation. Quelque chose qui vient les nourrir, qui vient résonner chez eux, qui vient les ressourcer. Donc la motivation, pour moi, elle vient aussi et d'abord de ça. Et c'est ce qu'ils me disent. C'est parce que j'ai cet espace-là, où je peux faire quelque chose qui est utile, qui a du sens, qui a de la valeur, que je viens me ressourcer et que ça nourrit l'ensemble de ma pratique. Et ça m'aide à trouver une place et une utilité dans mon système. Mais ça reste fragile, parce que voilà, un coach à temps partiel, il peut être pris à un moment donné par son manager, et donc on essaie, c'est tout le travail que je fais, de poser un cadre qui protège non seulement le coaching, mais qui protège aussi les coachs. Et par exemple, on a mis en place une convention qui fait que le coach, son N+1, mais aussi un représentant de l'activité, des RH, un représentant de métier, et moi-même, validons le fait que le coach est affecté à hauteur de 10 à 20% pour des missions de coaching qui ne relèvent pas de la relation managériale. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un accord de l'entreprise pour dire nous sommes d'accord pour avoir des coachs internes qui vont œuvrer en dehors de leur mission principale et en dehors de leur périmètre. Je suis chez l'activité voyage, mais j'ai un coach qui, pour 10 à 20% de son temps, va aller travailler pour nos amis de réseau. Donc avec tous les effets bénéfiques que ça a en matière de réseau, justement, mais aussi parce que c'est comme ça que ça peut marcher. Donc ça demande ça, un travail d'actualisation qu'on est en train de faire actuellement pour toujours revalider cette approche coopérative, transverse, au sein d'une entreprise qui, de par la réforme, sera de plus en plus amenée à raisonner dans son secteur propre. Donc c'est tout le risque et tout le pari d'un coaching interne avec des coachs à temps partiel, mais on parlera peut-être des évolutions après. Il y a sans doute des fonctions, dans le cas des évolutions du métier de coach, qui nécessitent une plus grande disponibilité quand on va accompagner des collectifs ou développer d'autres compétences, qui font qu'on ira peut-être aussi vers un modèle qui prendra en compte l'exemple d'Orange.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je suis coach et je fais le placement dans un cabinet pour manager et dirigeant qui s'appelle LHH Dirigeant. Finalement, quel est l'avantage pour une organisation d'avoir des coachs internes par rapport à des coachs externes, fondamentalement?
Une des raisons d'être que l'on a chez nous, c'est quand même la langue du client. Et quand on rentre à la SNCF et qu'on discute avec un manager à la SNCF, on se rend compte qu'on ne parle pas la langue du client. Donc l'avantage, c'est que la compréhension de la complexité de nos systèmes, de notre vocabulaire, de nos organisations, de nos modes de fonctionnement, de notre activité, fait que le coach interne a a priori ce cas de référence-là. La difficulté et le piège pour lui, c'est que du coup, il est quand même dans le système. Et donc tout le travail de dire comment je fais pour être à la fois dedans, pour être bilingue, pour parler la langue du client, mais aussi être capable de pouvoir me nourrir d'une langue étrangère et revoir mon cadre de référence. Donc c'est tout le travail que l'on fait aussi avec nos coachs internes, où l'on mobilise ces coachs pour qu'ils soient formés par l'externe, supervisés par l'externe, et on favorise le travail de groupe de pairs et de formation continue par l'externe. Donc c'est un vrai travail pour continuer à garder ça. Mais un des avantages essentiels, c'est celui-ci, c'est qu'il parle la langue du client. Qu'est-ce qu'on peut voir encore comme autre avantage concurrentiel ?
Matériel, financier, hein, aussi. Voilà. Hein, et je partage ce que tu viens d'exprimer, hein, le dedans-dehors. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce dedans-dehors, hein, ce qui nous permet de comprendre, accompagner les personnes dans cette culture. Alors, oui, le piège, c'est d'être noyé puis de ne plus l'avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a la culture, si je prends mon cas, il y a la culture d'Orange, où c'est la culture d'un opérateur télécom, très chahuté par la concurrence, donc il y a un certain rythme. Et en même temps, j'accompagne énormément des personnes qui vont passer d'une division à une autre et qui, en fait, changent de pays. C'est-à-dire qu'au sein de cette grosse culture dans laquelle on baigne tous, il y a des différences culturelles qui sont inimaginables, hein, entre les entités qui gèrent les grands groupes du CAC 40 à l'international, qui ont une culture plutôt anglo-saxonne, et Orange France qui gère le grand public, les centres de recherche. Et historiquement, on a une entreprise qui a un historique fonction publique, mais avec une multitude de filiales, de cultures différentes. Donc, en fait, c'est un vrai plaisir. Et ça nous permet, du fait d'avoir des clients qui viennent de partout et de la variété de ça, bah, finalement, de garder ce regard extérieur.
Dans un de nos ouvrages, on avait sondé les coachs internes. Et il était dit que les objectifs qui avaient motivé la mise en place du coaching interne, c'était d'abord l'accompagnement des changements dans l'entreprise, le développement des potentiels et du leadership ensuite, l'amélioration du fonctionnement des équipes, puis un peu dans une moindre mesure la prévention des RPS et l'amélioration de la communication. De ce que j'expérimente dans mon entreprise et de ce que j'entends aussi, le coaching, il y a aussi une notion de gain de temps d'avoir un coach en interne ou des coachs en interne. Parce que si vous avez une demande qui émerge, la réponse peut venir assez vite. Et puis, les personnes connaissent bien l'entreprise et on peut aller assez rapidement au cœur du sujet. Donc, il y a vraiment... Et puis, bien sûr, on est dans une économie d'échelle. Il y a à plusieurs titres, d'ailleurs, et on le voit dans notre association. C'est-à-dire que non seulement les entreprises ont des salariés qui apportent tout ce que je viens de vous lire, mais en plus, ils font partie d'un réseau de coachs internes qui, quand nous avons besoin d'une formation, quand nous avons besoin d'une supervision, quand nous avons besoin de quelque chose de partage d'informations, eh ben, nous communiquons dans ce réseau et les personnes qui ont de l'avance sur le sujet ou les personnes qui ont dans leurs connaissances ou dans des personnes à proposer pour nos besoins, les personnes qui ont déjà vécu ce genre de formation, eh ben, ils nous donnent de l'information. On a aussi une force de frappe qui ont une demande. On est plus nombreux à demander une formation, donc on peut aussi négocier. Donc ça apporte plein d'avantages au niveau financier et au niveau réactivité. Par exemple, récemment, on m'a demandé de mettre en place le mentorat dans l'entreprise. Donc, aux deux coachs internes, on a dit on aimerait bien mettre en place le mentorat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un mail à tous les membres de l'association et je leur ai demandé qui a déjà fait du mentorat. Et c'est comme ça qu'on a gagné énormément de temps. Donc c'est une vraie ressource en interne qui est très diversifiée.
Deux points aussi pour répondre à la question. L'impact économique, effectivement, tu l'as abordé, c'est essentiel. Si on prend un coach Orange qui doit faire environ 50 coachings par an, jusqu'à 50 coachings par an, un coût moyen de coaching externe, c'est entre 5 et 8 000 euros. Si j'en fais 50 avec une moyenne de 7 000, ça fait 350 000 euros. Je ne pense pas qu'elle soit payée à 350 000 euros par an. Hein? Donc, je pense la différence, c'est du bénéfice pour l'entreprise. Hein. C'est des coûts économisés. C'est vrai aussi pour le coaching interne à temps partiel. Parce qu'on avait calculé que même en incluant la formation, la supervision, les temps dédiés ou autres, un coach interne qui fait 8 coachings par an, donc 15% du temps, en moins d'un an, on a amorti tous les coûts d'investissement. Donc après, on fait des économies. Donc même à temps partiel, ça vaut le coup. Mais un autre avantage, c'est que les coachs, quand ils sont à temps partiel, ce sont des vecteurs de transformation. Ils ont des fonctions. Ils sont porteurs d'une culture. Ils sont porteurs d'un état d'esprit qui va transformer l'entreprise au quotidien, dans leurs actions, leur façon de faire. Ils sont coachs, certes, quand ils coachent, mais quand ils ne coachent pas, ils sont aussi coachs. Ils sont porteurs, ils sont vecteurs d'une transformation. Donc ce sont des leviers d'une culture coaching qui va venir comme ça, transformer par elle-même. Donc ce sont autant, je dirais, de petits virus qui viennent transformer l'entreprise dans le sens souhaité. par rapport à des notions de responsabilisation, d'autonomisation, d'engagement, etc.
Je me dis que dans une entreprise telle que la SNCF, qui est vraiment en très grande transformation avec un changement de marque, et voilà, c'est quand même une forte transformation. Et quand je vous entends parler du coaching à la SNCF, où j'ai l'impression que cette activité, elle est un peu accessoire. Je me dis, est-ce que ça veut dire que le coach interne n'a pas d'impact sur, n'a pas un rôle important dans la transformation et dans l'accompagnement de la transformation? Voilà, c'était ma question.
On revient sur la question de la stratégie. La stratégie est portée par une direction d'activité. Toute direction est aujourd'hui mobilisée sur la responsabilité qui est la sienne dans l'accompagnement et la transformation. Et elle choisit les modalités qui lui incombent. Nous sommes dans une direction centrale, et donc notre rôle, il est d'accompagner les managers dans des formations, dans des parcours, et de leur permettre de se saisir de ce qui se passe pour pouvoir développer. Mais nous ne sommes pas inscrits dans la stratégie. Ce qui veut dire que ce sont les personnes qui sont en responsabilité qui vont venir nous solliciter pour accompagner des personnes, pour accompagner des organisations, des collectifs, mais il n'y a pas l'idée de dire on va se servir du coaching pour transformer l'organisation. Ça pourrait être un choix. C'est la question de comment fait-on pour que nos dirigeants se saisissent ou pas de cette opportunité-là. Aujourd'hui, de fait, ce sont plutôt d'autres moyens qui sont mobilisés pour conduire les transformations. Alors, c'est la question de qui demande. Si c'est le coach interne qui demande, quelque part, on a raté quelque chose dans la place du coaching et on est en train de devenir coach externe. En tout cas, voilà. Mais c'est une possibilité. On envisage dans les solutions de créer demain une entité qui serait une sorte de filiale, donc une sorte d'internalisation de coaching externe et qui aurait une business unit et qui aurait des chiffres d'affaires et qui aurait des résultats à produire. C'est une solution envisagée. On n'a pas été jusqu'au bout de l'internalisation du coaching interne en disant on a là un levier dont on doit se saisir pour la transformation. Ça va venir. Immanquablement, ça va venir. Parce que les transformations que nous avons menées vont nous confronter à des difficultés de changement de culture, de changement vraiment qui vont mobiliser les personnes dans des dimensions qu'on ne sait pas encore apprécier et qui font que seul le coaching pourra offrir l'espace pour pouvoir accompagner les transformations organisations. On n'en est pas encore là, mais ça va venir. Et après, ce qui se passe aussi, moi je parle du coaching tel qu'on l'entend dans les définitions du coaching. C'est-à-dire effectivement cette mise en place d'un accompagnement spécifique avec des objectifs définis avec la personne qui se fait dans une relation et un cas défini. Le coaching se démocratise, il se vulgarise. Il imprègne tous les tissus. On voit l'IFOD qui propose des formations pour les managers, pour les RH, dans lesquelles il y a une imprégnation du coaching. Donc la culture coaching se diffuse. J'ai aujourd'hui, moi, des personnes qui sont dans l'excellence au personnel, dans le lean and learn, dans tout ce qui est les démarches effectivement de transformation, et qui se saisissent du coaching. On a des personnes qui sont en charge des RPS, en charge de la prévention des risques, etc. et autres, qui se saisissent du coaching. Donc il n'y a pas que les coachs qui coachent. Il n'y a que les coachs qui peuvent offrir un espace qui permet vraiment le travail en profondeur, en transformation. Mais le travail de développement, d'adaptation, d'évolution, de transformation, d'autres s'en saisissent. Après, c'est un débat. C'est un débat. Est-ce que c'est du coaching au sens C majuscule et lettre de noblesse, ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, ça a pour vertu, pour effet, de permettre de développer de nouveaux comportements, de transformer des cas de référence, de modifier des cultures. Donc ça produit des effets que le coaching n'est pas le seul à pouvoir produire. Voilà. Par contre, ça pose des questions de déontologie, d'éthique, de but, de qu'est-ce qu'on poursuit, à quoi on sert. Mais voilà, ça existe de fait. De fait, ça existe et ça produit des effets. Nous, on préserve un cas de coaching qui soit tout à fait aligné par rapport au coaching tel qu'on l'apprend dans les écoles. et pour moi, c'est précieux de préserver ce cadre-là parce que c'est le seul espace qui fait qu'on conserve cette dimension de responsabilisation et que c'est ainsi qu'on pourra vraiment transformer. Mais d'autres choses existent et qui viennent se substituer et qui ont peut-être plus leur place. Hein. Complémentarité, il faut l'entendre.
Je pense que c'est important en tant que coach interne de ne pas être le coaching, c'est que ça, et puis les autres, c'est pas du coaching. Et puis, je pense qu'on a intérêt, au contraire, à travailler la complémentarité, les partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement de la transformation au sein de l'entreprise. Chez Orange, par exemple, on est une société quand même très, très technique. Donc, bien évidemment, les coachs agiles, la méthode agile se développent énormément. Alors, effectivement, les coachs agiles et la méthode agile parlent de coachs agiles. Les coachs agiles ne sont pas des coachs professionnels au sens où nous l'entendons. Pour autant, devons-nous nous faire la guerre et dire... Hein, et donc, au contraire, nous sommes en train de travailler avec eux, de voir... Quelle est la complémentarité? À quel moment eux, ils sont dans, ils identifient une situation où il y a besoin qu'on intervienne et réciproquement. Hein, moi, je peux avoir en coaching individuel un patron et puis finalement, il a des questions et des demandes. Ben, le coach agile sera plus à même d'y répondre que moi, ce qui me permet de faire la part des choses et d'intervenir moi là où je suis pertinente. Et donc, on a tous les métiers de facilitateur aussi qui se développent énormément. Hein, ce sont plutôt des rôles, donc avec le design thinking, toutes ces méthodes qui sont tout à fait nouvelles et qu'on pourrait dire à la mode, comme le coaching, certains vont dire c'est un truc à la mode aussi. Je pense que c'est important de prendre en compte nos complémentarités, de plutôt d'être en approche partenariale avec l'ensemble de ces acteurs. Et c'est justement avec la force de frappe de nos partenariats qu'on arrivera à tous faire notre part de colibri dans la transformation de l'organisation à laquelle on appartient.
Alors, par rapport au mot coach, quand nous avons commencé à travailler chez Carglass, il y a des personnes qui disaient « celui-là, je le coach, mais je vais le coacher, il va filer droit ». Donc au début... je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'ils mettent le mot à toutes les sauces. Et puis, rapidement, il y a des managers qui étaient en fait des personnes qui étaient managers de call. Donc, ils écoutaient les conversations. Ensuite, ils leur donnaient des instructions et on les appelait les coachs. Donc, assez rapidement, on a influencé, on a expliqué que ce que c'est le coaching et que ça, ce n'est pas coach. Donc, ils ont accepté de changer puisque l'entreprise avait investi sur des coachs. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait de la confusion là-dessus. Et donc, on a eu à peu près 6 ou 7 années de tranquillité à ce niveau-là. Et puis, personne n'utilisait le mot à part nous. Donc, c'était bien, on était tranquille. Et puis, il y a 3-4 ans, la direction commerciale a décidé de former ses commerciaux, ses responsables commerciaux, pour être un peu plus proche de leurs commerciaux, enfin, etc., etc. Et puis, j'ai vu passer... Des mails, des machins, des trucs. Et puis tout d'un coup, il y avait un courrier en interne où il y avait le mot de coach qui a été utilisé à peu près 10 fois pour expliquer ce que faisaient les managers commerciaux. Et ben, j'ai pas du tout été open comme tu l'es, Valérie. C'est-à-dire que j'ai appelé le dirigeant de l'équipe et il a pris un gros savon. Parce qu'en fait, il sait qu'on existe. Il a même été coaché, donc il sait qu'on existe. Et ce qu'il faisait, c'était saboter l'investissement de l'entreprise pour ce qu'est un coach. Et donc, je n'ai pas du tout été très open du tout. Donc, il a tout de suite dit, OK, c'est une bêtise. Et en fait, pour nous, la position qu'on a choisie, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de confusion, justement, parce qu'il y a eu le coach qui vendait des meubles, il y a le coach amour, c'est super, hein, il y a du boulot pour tout le monde. Mais chez Carglass, on veut éviter la confusion. Et c'est ce que nous, on a choisi comme postulat en tant que coach. Maintenant, peut-être qu'on va revoir l'histoire, mais on sera toujours vigilant à ce que ce mot soit utilisé à bon escient. Et par contre, on a moins le contrôle sur ce qui se passe dans le reste de la société. Et c'est vrai que parfois, on nous rionnait. Parfois, c'est même dur de dire qu'on est coach. Hein. Moi, en externe, parfois, j'ai du mal à dire que je suis coach parce que j'ai l'impression que je dis un mot un peu galvaudé. Alors que pour moi, ce métier est un très beau métier. Donc j'essaye de le véhiculer et je suis vigilante à essayer d'être le plus professionnel possible parce qu'on peut nous rironner, c'est vrai, ça arrive, hein. C'est pas grave.
Merci, hein, moi j'ai longtemps tenté de défendre cette cause-là. Aujourd'hui j'ai renoncé, mon combat n'est plus le même. Mon combat il est de permettre à mes coachs de pouvoir dire « je suis coach ». Et le « je suis coach », ça qualifie un état. Alors que celui qui est coach en ligne, coach agile, coach en santé, machin, etc. On identifie tout de suite qu'il a des buts à servir.
Donc, c'est-à-dire la question, c'est celle de la déontologie, l'éthique. Celui qui est capable de dire « je suis coach », ça veut dire qu'il n'a pas de résultat à signer, on n'a pas d'attendu par rapport à sa pratique. On lui demande juste de faire le coach, d'être coach. Celui dont on sait qu'il est associé à une méthode, un service, un but, une compétence, ok, on sait pourquoi il est là. Et le client sait faire la différence. Il sait faire la différence de l'endroit où il sait qu'il va devoir se servir de ça pour pouvoir développer une compétence attendue par l'entreprise et l'espace de liberté dont il a besoin et qui va lui permettre, lui, de s'ajuster à son environnement. Ce n'est pas la même chose.
Quand on est coach interne dans une entreprise, quels sont les débouchés de carrière? Quelles sont les suites? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller devenir coach interne chez quelqu'un d'autre ou, et puisqu'on est un peu intéressé par les débouchés pour nos élèves. Et aussi, comment devient-on coach interne chez quelqu'un? Surtout si l'avantage du coach interne, c'est de connaître l'entreprise et qu'on vient de l'extérieur. Comment est-ce qu'on... Est-ce que c'est surtout du recrutement à l'interne?
Pour ma part, il y a 15 ans, je voulais redevenir coach parce que je voulais en entreprise. Je voulais retourner en entreprise et j'ai commencé à faire la tournée. La personne qui m'avait formé au coaching m'a mis en lien avec Agnès Jousselin d'EDF, qui m'a mis en lien avec quelqu'un d'autre, qui m'a mis en lien avec quelqu'un d'autre. Et toutes les réponses que j'avais de ces très grandes entreprises étaient qu'on ne prenait des coachs internes qu'en interne. C'est-à-dire des salariés qui connaissent déjà l'entreprise et que c'était leur réponse. Et donc, à l'époque, j'avais renoncé en me disant, bah, voilà, j'entre pas dans ce moule-là. Et puis, il y a eu cette première chasse de tête qui était pour Carglass. À l'époque, c'était inouï, inédit. Mais depuis, ça s'est de plus en plus démocratisé, c'est-à-dire qu'on reçoit régulièrement des messages de structures qui souhaitent embaucher un coach en interne, et on la diffuse à nos adhérents ou aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, parce que de plus en plus, les entreprises vont en extérieur chercher un coach interne, mais en général, ce n'est pas des très grosses entreprises. C'est-à-dire les très grosses entreprises, on peut imaginer SNCF et Orange, ont suffisamment dans leur vivier des personnes qui ont peut-être déjà même été formées par elles-mêmes en sous-marin. Et en tout cas, des personnes, et je vois à Pôle emploi avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, c'était comme ça. Ils avaient soit ils formaient les personnes, mais au début, ils pouvaient prendre des personnes dans leur vivier. Mais toutes ces personnes qui deviennent coach sont des gens déjà de l'interne. Donc ça dépend de la taille de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Alors ça dépend des structures. Pour ma part, dans ma structure, je pense que je resterai coach interne. Par choix, par moment, et par moment aussi parce que la structure peut avoir du mal à vous imaginer faire autre chose. Parce qu'on est satisfait de la façon dont vous travaillez, parce que vous êtes un élément important pour l'image de l'entreprise aussi. Tu parlais cosmétique, sans être cosmétique, en tout cas pour Carglass, ce n'est pas comme ça que je le ressens, mais toujours est-il que dire qu'on a des coachs internes et des personnes qu'on recrute, ça fait une sacrée différence. C'est vraiment quelque chose qui attire les personnes. Et donc, quand on a des coachs internes et qu'on trouve qu'ils font du beau travail, c'est difficile de les faire aller à autre chose. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis dit, ben, je sais que j'ai resté coach interne chez Carglass. Par contre, je crois que dans d'autres structures, ce n'est pas du tout pareil. On attend d'autres. D'abord, ils ont déjà un autre métier, comme c'est le cas à SNCF. Donc, ils peuvent évoluer dans leur métier tout en gardant une partie coach interne. Mais Bernard répondra mieux que moi. Et puis, il y a des structures comme Orange qui ont des coachs en interne qui peut-être essayent et certainement essayent de faire évoluer leur coach. Valérie pourra mieux répondre que moi.
Alors effectivement, la question de l'employabilité du coach interne, ça préoccupe beaucoup notre DRH et notre hiérarchie parce qu'on est dans une entreprise où, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il y a une injonction pour tout le monde qu'il faut quand même changer de poste tous les 5 ans. Hein. À cette injonction, ça fait quand même depuis 2009 que je suis là, je réponds oui. Le médecin, est-ce qu'il change de métier tous les 5 ans? Alors, je ne me prends pas pour un médecin, mais vous voyez, il y a des fonctions. L'avocat, est-ce qu'il change de métier tous les 5 ans? Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai mon accréditation coach senior à l'EMCC. On ne vient pas coach. Mon entreprise, pour garantir, comme je vous l'ai dit, la sécurité, est très contente d'avoir des coachs qui soient accrédités seniors parce que ça leur permet de se rassurer hein, sur l'exercice de ma fonction. Si on applique la règle qu'il faut changer régulièrement pour aller faire absolument autre chose, ça veut dire que le temps que je devienne compétente et d'avoir le niveau attendu pour coacher ce niveau de personnes et de situations, C'est le temps d'arrêter mon activité. Alors, c'est un peu ubuesque. Hein. Donc, la question aujourd'hui, nous, en tous les cas, concrètement, sur notre équipe, il y a eu des départs, et à chaque fois, ça a été des départs à la retraite. Sauf récemment, un de mes collègues qui a fait la démarche de devenir superviseur, hein, donc qui s'est formé à ce métier de superviseur pour justement, alors il a pris son bâton de pèlerin auprès de la direction qui est en charge de justement des méthodes agiles et de mettre en place l'agile au sein de la DTSI, mais maintenant pas uniquement au niveau informatique, plus globalement dans l'entreprise, parce que ça prend son essor, qui avait une pléthore de coachs agiles qui étaient un peu en souffrance parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient suivi une formation coach agile, mais ils se rendaient compte que, on gère des humains, mais en fait c'est vachement complexe le truc. On a besoin d'un peu de repères. Donc en fait, ils se sont rendus compte que leur formation coach agile, c'était pas tout à fait suffisant pour faire en sorte que les projets qui sont en mode agile sortent vraiment, quoi, hein. Donc, il a vendu ça, il a fait une offre de service à la direction en question. Ben là, depuis un mois, il est superviseur pour les coachs agiles de l'entreprise et pour les aider à se développer dans leur posture et pas uniquement dans leur méthode. Voilà, c'est un exemple. Après, à titre personnel, moi, si effectivement, à un moment donné, je me lasse, je me dis, bon, j'ai pas l'impression que ça va arriver, mais au cas où je me lasse, ben, je peux retourner sur des fonctions que j'avais précédemment en ressources humaines, mais peut-être pas la même chose. Bon, il y a des postes de talent management, de gestion des carrières, de conseiller, après... d'accompagnement de la transformation. Il y a un certain nombre de postes de responsables de la transformation. Finalement, on a acquis des compétences qui sont tout à fait transposables sur plein d'autres choses. Aujourd'hui, je dirais, je veux reprendre un poste de DRH opérationnel. J'arriverai à me faire recruter parce que j'ai ce background. J'ai été DRH, j'ai mon réseau en interne dans l'entreprise. C'est pas parce que je fais le coach... depuis 9-10 ans que je ne peux pas revenir à mon métier.
Oui, Michel le disait bien, effectivement, l'employabilité pour nos coachs internes à temps partiel, ce n'est pas un souci. Voilà, le souci, c'est plutôt de comment faire pour qu'ils puissent continuer à exercer. Mais on a quand même un souci, et c'est aussi comment fait-on pour que la compétence de coach soit, elle, reconnue. Et qu'effectivement, la culture soit suffisamment mûre pour dire, tiens, lui, il est aussi coach, et ça m'intéresse pour le job que j'ai pour lui. Donc ça, on commence à grandir là-dessus. Certains dirigeants ont bien compris que c'était un plus et donc recherchent aussi la compétence coach pour les missions principales, mais pas forcément en tant que coach à temps plein. Après, je répondais quand même à la question, comment devient-on coach interne ? Effectivement, des coachs qui étaient externes, qui sont aujourd'hui dans une mission et qui sont aussi coach interne, j'en connais que deux. J'ai par contre des coachs qui sont coachs internes et qui sont aussi coachs externes. C'est-à-dire qu'elles ont un temps partiel et elles ont des clients en dehors de leur activité. Et pour devenir coach interne aujourd'hui à SNCF, on a certes la formation par une école reconnue par les associations comme EMCC, ICF ou autres. Première étape. Puis une fois que la personne est certifiée ou en passe de l'être, on lui propose un parcours en interne. Parce que la personne n'a pas forcément l'expérience du coaching en interne, avec toute la spécificité qu'on évoquait tout à l'heure sur la place du coach en interne. Et donc, on leur propose 2 ou 3 clients en interne et un espace de supervision avec des coachs externes et un groupe de pairs internes qui permet de confronter son cas de référence à celui de ses collègues et, quelque part, de commencer à partager un cas de référence commun quant au coaching interne. Et une fois qu'ils ont fait ça, on leur demande d'écrire un mémoire où ils peuvent nous faire l'état de où ils en sont de leur savoir-faire coach et de leur savoir-être coach, et leur projet, leur motivation et la place du coaching qu'ils se font. Et une fois qu'ils ont fait ça, on leur propose un jury de référencement composé d'un coach externe expérimenté, le plus souvent quelqu'un qui vient de MCC, ICF, SF Coach, d'un coach interne d'une autre entreprise, Orange et Carglass sont déjà venus, et d'un représentant d'entreprise, DRH, qui vient effectivement, comme ça, valider le processus. Et donc, du coup, on a ce jury-là qui vient valider la compétence du coach en interne. Voilà, on n'a pas vraiment un processus. Après, nous avons des coachs externes qui sont référencés dans un processus tout à fait classique d'achat de prestations et on reconnaît la compétence. Voilà, on n'achète pas des coachs internes pour faire des coachs externes pour faire des coachs internes.
Bonjour, j'avais une question sur le temps. Est-ce que le temps de coaching change quand on est en interne ou en externe? Et quel est le rapport au temps opérationnel quand on est... est-ce que ça change quelque chose quand vous imaginez une durée, en fait?
Je pense pas. Nous, nos durées de coaching, c'est entre, selon la problématique, entre 6 mois et 12 mois.
Pour ma part, il y a une différence, à savoir quand j'interviens en externe, il y a une espèce de package de 9 heures de coaching proprement dit, avec en plus une heure, enfin il y a une heure de tripartite de début, une heure de tripartite de fin, plus l'heure de rencontre pour se choisir. Donc on arrive à quelque chose de l'ordre de 9, 10, 11, 12 heures et je reste dans ce cadre-là. En coaching interne, c'est beaucoup plus, il y a plus de liberté à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous ne facturons pas le coaching en interne, donc on est à disposition. Et les durées sont à peu près ce que tu viens de dire, 6 à 12 mois. Cependant, on peut se voir plus souvent, mais toujours dans ce cadre de 6 à 12 mois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles voudront au début se voir tous les 15 jours ou tous les mois. Il y en a d'autres, elles voudront se voir toutes les semaines, qu'on se voit toutes les semaines parce qu'il y a une problématique qui est spécifique. Donc on a cette liberté-là du fait qu'on est coach en interne et qu'on est à disposition. Et puis également, ce qu'il y a de spécifique, c'est qu'un coaching peut être terminé depuis assez longtemps et la personne peut revenir pour une rencontre. Ce qu'en externe, on ne fait pas. En tout cas, je ne fais pas.
Et pour SNCF, on est vraiment sur des dispositifs complètement analogues entre l'interne et l'externe, avec un nombre de séances qui est identifié dans le contrat. Les modalités sont définies en fonction de l'objectif. Je dirais que la tendance, j'avais fait une étude, on était autour de 8 heures en moyenne pour des coachings externes et autour de 7 heures pour les coachings en interne. Parce que pas mal de coachs externes, comme ils sont au forfait, en tout cas, ils ont un contrat unique avec un client et ils ont tendance, comme ils sont plafonnés sur le taux horaire, à aller jusqu'au maximum de ce que le contrat permet. Et on voit des forfaits à 10 ou 12 séances en externe qu'on voit plus rarement en interne. En interne, on est vraiment sur le sur-mesure de 5 à 10 séances. Donc en termes de temps, ça prend à peu près équivalent, peut-être un peu moins.
La transformation dans les groupes, les grands groupes auxquels vous appartenez, elle passe aussi par le dialogue social. Comment le coaching interne il se positionne par rapport au dialogue social? Est-ce que vous êtes sollicité soit par des managers qui sont chargés de conduire ce dialogue, ou est-ce qu'on vous sollicite pour du conseil sur la manière de mener ce dialogue social? Est-ce qu'il y a des liens?
Alors nous sommes un grand groupe et le dialogue social correspond à une longue tradition. Donc nous avons depuis longtemps mis en place des dispositifs qui se substituent à ce qu'un coach pourrait faire dans une entreprise de taille beaucoup plus modeste. Le coaching fait ça, le coaching vient toujours explorer des terres nouvelles, puis à un moment donné, on industrialise avec des dispositifs que sont la formation, que sont le mentorat, que sont d'autres dispositifs d'accompagnement qui viennent se substituer à ce que le coaching a développé. Donc nous avons des dispositifs spécifiques pour accompagner des responsables de relations sociales, des présidents de CHSCT, des personnes, des formations sur le management des relations difficiles. Nous avons tout un tas de dispositifs qui viennent accompagner. Il reste qu'en tant que de besoin, ponctuellement, on peut accompagner un représentant d'entreprise, parfois un représentant syndical, ce qui peut poser des questions par rapport à la déontologie et à la loyauté, hein, mais ça on laisse nos coachs le travailler. Mais voilà, c'est vraiment sur les demandes spécifiques liées à une situation bien particulière ou à une personne.
Je dirais qu'effectivement, on reste coach, hein, donc on n'est pas dans le conseil. On n'est pas dans la transmission de connaissances. En tous les cas, dans notre pratique, nous, c'est du coaching individuel que l'on fait, qui répond à un besoin de l'individu. On accompagne bien l'individu au travail. Donc, par rapport à ce qu'il est et de ce que ce qu'il est fait écho ou effet de contraste avec la situation à laquelle il est confronté. Donc on n'intervient pas dans les processus d'accompagnement, conseil, formation, soutien auprès des acteurs. Maintenant, à la marge, effectivement, comme tu dis, on a des demandes de coaching de tout type de personnes. Très récemment, voilà, j'ai eu une demande de coaching individuel de quelqu'un, d'un membre d'une organisation syndicale qui était dans le staff de l'organisation syndicale. Eh bien, je l'ai accompagné comme j'aurais accompagné n'importe quel autre responsable d'une activité, et on a travaillé sur lui, sur elle, quoi, hein, sur les difficultés éventuellement qu'elle avait à gérer certaines situations sur un plan émotionnel, sur ses mécanismes personnels.
Pour notre part, on est bien au fait de ce qui se passe au niveau des représentations syndicales, puisque la structure est moins grande, et on n'est pas du tout inclus dans quoi que ce soit en dehors de demandes de coaching individuelles qui peuvent émaner, pour simple raison qu'on reste dans une position neutre. Cependant, si on devait nous demander un accompagnement, ne serait-ce que de coaching d'équipe, enfin quelque chose au niveau de l'équipe quand ils se retrouvent, ce serait quelque chose qu'on pourrait faire, mais il n'y a pas de demande, donc c'est pas envisagé.
Est-ce que vous avez été confronté à des cas pathologiques, des gens qui présentent des troubles pathologiques? Et si oui, comment vous gérez?
Je ne peux pas dire que j'ai été confrontée à des cas pathologiques. Ce que j'ai pu rencontrer, c'est par exemple des personnes qui se sentaient maltraitées par leur manager. Et donc, il y a eu ce moment où j'ai quelque peu changé de casquette, hein, savoir... Je lui ai posé la question de savoir s'il savait quelle est la démarche à faire quand on se sent maltraité par son manager. Donc je suis sortie un petit peu, de mon rôle de coach, hein, puisque cette personne, visiblement, ne savait pas à quelle porte frapper. Ce n'était pas mon rôle de jouer d'être ce vecteur-là, puisque je ne savais pas, ce n'était pas moi qui ai généré un processus de harcèlement, etc. J'ai eu affaire à des situations, mais que ce n'était pas proprement en coaching, à des situations de manager maltraitant, mais ce n'était pas dans le cadre de coaching, c'était plutôt des relations attitudes personnelles qui m'ont amené à parler à ces personnes, mais avec un poids parce que j'étais coach, en fait, tout simplement. J'ai rencontré des personnes qui, vraisemblablement, une grande partie de ce que on aurait pu travailler était liée à du travail de thérapeutique, et là j'ai toujours dans mon carnet d'adresses des thérapeutes à disposition. Donc il peut m'arriver et assez régulièrement de recommander à la personne, quand la relation de confiance est suffisante, de faire un travail thérapeutique parallèlement au coaching.
Ça m'est arrivé, oui, d'avoir des personnes en grande détresse, pas forcément par des problèmes liés à leur hiérarchie et leur environnement professionnel, mais plus par des histoires de vie. À ce moment-là, d'ouvrir le dialogue. Là, effectivement, on enlève la casquette de coach, hein, c'est-à-dire d'ouvrir le dialogue sur quelles sont les structures qui existent au sein de l'entreprise. Et nous avons un grand nombre de dispositifs pour aider les personnes qui en ont besoin. Hein, ça peut être des problèmes aussi d'alcool qu'on peut détecter, ou de négligence personnelle, et qui peuvent être symptomatiques de... la personne, elle arrive sur un sujet, en fait, on voit bien que c'est en lien. Donc, parfois, effectivement, le résultat du coaching, c'est d'avoir aidé la personne à avancer dans la compréhension de sa situation et d'accepter de faire un premier pas, au moins d'aller voir un médecin.
Bien évidemment, c'est la même démarche chez nous. Moi, je ne suis ni psychologue ni médecin, donc je ne peux pas poser de diagnostic. Et ce qui vient un petit peu chez nous faire différence, c'est qu'on a un processus dans lequel la personne exprime un besoin. Donc déjà, il y a un travail réflexif qui est à faire pour adresser une demande à un référent. Et ce référent, ensuite, reçoit cette demande et a un entretien pour faire l'analyse de la demande. Et donc, c'est à l'issue de cette analyse de la demande qu'on va mettre en relation avec un coach. Et ce travail d'expression de besoin, d'analyse de la demande, fait que s'il y a quelque chose qui relève de la pathologie, en tout cas, fait qu'il y a quelque chose que la personne ne peut pas s'inscrire dans un coaching, s'identifie tout de suite. Ce travail d'élaboration pour pouvoir exprimer un besoin, transformer un objectif avec des résultats attendus, si c'est une demande autre qui s'invite, elle ne pourra pas trouver sa place là-dedans. Donc ensuite, nous, on a la chance de pouvoir permettre à la personne, éventuellement, de lui offrir la palette des possibles, sachant que c'est toujours lui qui est responsable de ce qu'il va faire, ce qu'il va en faire. Et nous avons la chance d'avoir un pôle de soutien psychologique avec des psychologues qui, eux, sauront adresser un diagnostic et sauront accompagner la personne vers un travail qui est adapté. Donc ce processus d'expression de besoin, d'analyse à demande, puis de mise en relation avec un coach, fait que quelque part, on a des choses qui, lorsqu'elles arrivent au coach, relèvent bien du coaching.
Je voulais savoir, en fait, qui vous sollicite ? Est-ce que c'est toujours les collaborateurs ? Est-ce que ça, parfois, ça passe par la DRH ? Et comment ça fonctionne ? Est-ce que, par exemple, le collaborateur, il a le droit d'appeler un numéro de téléphone ? Comment ça se passe, pratiquement ?
Chez nous, on a 30 à 40% des demandes qui émanent directement du collaborateur. Quand je dis directement, c'est lui qui est porteur de la demande. Mais ça peut être suite à un entretien individuel, suite à un entretien avec un comité carrière, suite à des démarches. Bon. Donc c'est plus ou moins quelque chose qui vient de lui et dont on vérifie qu'il est vraiment client, parce qu'il est vraiment porteur d'une demande qui le concerne. Si la demande vient directement d'un manager ou d'un acteur RH ou d'un processus carrière, à ce moment-là, nous, on revient systématiquement vers celui qui a émis la demande pour l'autre, de manière à comprendre ce que lui, il en attend, et est-ce qu'il est vraiment dans sa place et son rôle en suggérant ce coaching pour son collaborateur ? Est-ce qu'il a fait son travail de manager ? Est-ce que les conditions sont réunies ? Est-ce que l'environnement est fait qu'on pourra mettre en place du coaching ? Donc on a ce retour vers le commanditaire pour s'assurer que le cadre du coaching est OK, avant même la mise en place du coaching et avant même l'entretien tripartite qui suivra. Et une fois qu'on a fait ça, on revient vers le collaborateur pour voir si lui, il est effectivement client. Alors la servitude volontaire est souvent à l'œuvre, hein, et donc parfois on a des demandes d'adaptation à un environnement plus qu'une demande de développement, mais c'est tout le travail de l'analyse à demande et du coaching que d'effectivement de s'assurer que ce qu'on fait est bien dans l'hygiène du client coaché.
Il arrive aussi que effectivement la personne, comme tu parles de servitude volontaire, il faut être conscient de tous ces mécanismes, fait une demande et donc nous la première chose qu'on fait, donc on a on a une boîte mail et on reçoit les demandes dans la boîte mail. Hein, donc elle peut venir, ça peut être un mail du salarié directement. Alors soit c'est son initiative parce qu'il a un collègue qui a, c'est le bouche à oreille, qui lui a dit écoute, c'est super, vas-y, machin. Et il vient nous voir directement, le manager n'est pas encore au courant. Soit c'est son manager qui, lors de l'entretien, si je prends la caricature dans le sens, qui, lors de l'entretien, dit quand même, tu travailles ça, il y a des coachs, tu devrais y aller. Nous, le client, c'est le coaché. Et dans l'entretien tripartite, c'est ce qu'on dit devant le manager. Et vous savez, le client, c'est un tel, quoi. Hein. Donc, premier entretien avec le client. Et en fait, nous, on ne prend pas contact. Alors, il nous envoie un mail. À ce moment-là, effectivement, on va répondre à ce mail. On va lui proposer un rendez-vous. Mais si c'est un manager ou un talent manager qui nous envoie quelqu'un suite à un programme talent où on a détecté que ça serait bien qu'il développe son leadership, etc., je sais pas quoi, la réponse c'est je suis disponible pour un nouveau coaching, vous pouvez donner mon nom à cette personne. Et ben, on attend que la personne nous contacte, et des fois elle ne contacte jamais, et donc on se considère qu'il n'y a pas de demande. Ou alors elle nous contacte, et puis premier rendez-vous, alors on questionne le besoin, la demande. Ben oui, mon chef a dit que. Ah, bon, et vous dites quoi ? Et donc si on se rend compte que la personne, elle est plus dans la soumission à une injonction, ben nous, on ne va pas valider, on ne va pas prendre.
Alors dans le sondage qu'on avait fait, ce qui émergeait, c'est que 39% de l'origine de la demande venait du futur coaché auprès des personnes, des entreprises sondées, 33% du supérieur hiérarchique, 23% du RH et 5% du coach interne lui-même, enfin des personnes en charge du coaching interne plutôt que du coach interne lui-même. Nous, dans notre réalité, la demande vient... à peu près on croise les personnes ou elles nous écrivent directement parce qu'elles nous connaissent, comme la structure est petite, et en général, c'est les coachs, les futurs coachés qui font la demande. Il arrive que le manager fasse la demande. C'est rare que chez nous, les RH fassent la demande. C'est soit le collaborateur, soit le manager. Quand c'est le manager qui fait la demande, on ne lui pose pas de questions. On lui demande juste, est-ce que tu en as parlé à ton collaborateur ? Et il nous dit oui ou non. Et donc, on lui propose... dans tous les cas, de lui envoyer un document qui explique ce qu'est le coaching en deux slides, très simple, avec les questions les plus courantes. Et ensuite, on dit, donne ceci à ton collaborateur et s'il souhaite être coaché, il nous contacte. Donc il nous contacte par mail, soit l'un d'entre nous, des deux coachs, mais sachant que, et c'est marqué dans le document qu'il reçoit, que ce n'est pas forcément la personne à qui il a écrit qui va être son coach par la suite, parce que pour les raisons de déontologie, on ne peut pas lui garantir que la personne soit disponible pour travailler avec lui. Et donc, on s'assure toujours qu'il y ait une vraie demande. Et en effet, ça peut durer très longtemps entre le moment où le manager dit « Si, si, je lui en ai parlé. Ok, on t'envoie le process pour voir comment les informations, tu lui transmets. » Et alors, on croise le manager. Alors, il vous a contacté ? Ben, pas pour l'instant. Et ça peut durer un an, ça peut durer deux ans. Ou des personnes qu'on croise. « Ah, je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi. » Ok. Parfois, il n'y a pas de demande, en fait. Il y a juste un désir, mais pas vraiment une demande.
Je vais juste changer de sujet parce que le temps passe et je pense qu'il y a, moi, quand j'entends des candidats pour le coaching, que ce soit un coaching interne ou un coaching externe, je pense que vraiment, on est un grand absent dans le débat ce soir, c'est la question du digital et de l'intelligence artificielle. On ne peut pas, quand on se forme au coaching, faire abstraction de ça. On se doit, pour savoir quelle est la place du coaching interne et quelle est la place du coach demain, de se dire qu'est-ce que le coach peut faire que l'intelligence artificielle, que la formation, que le codev, que le coach agile, que le coach en ligne, etc. Qu'est-ce que moi seul peux faire que aucun de ces dispositifs ne peut faire. Et c'est vraiment, et comment je peux faire aussi avec, hein, on ne peut pas ignorer aujourd'hui le coaching à distance, le coaching en ligne, les outils du coaching, les chatbots qui permettent de discuter avec des coachs virtuels. Tout ça sont des outils qui vont nous remplacer si on ne renforce pas, si on ne travaille pas sur qu'est-ce que moi, seul, en tant qu'humain, je peux apporter, qu'aucun de ces dispositifs-là ne peut apporter. Et comment je peux faire pour que ces dispositifs soient à notre service et non pas l'inverse. C'est vraiment une alerte que je vous porte. Je pense qu'elle a place, mais ça nous oblige, encore une fois, à chacun de nous, en tant que coach, en tant que personne, à aller chercher plus loin ce qui fait l'humain et qui ne peut pas être mis sous forme digitale ou autre.
Merci beaucoup. Nous allons terminer cette soirée. Merci à Michel, Valérie et Bernard. Et de très beaux témoignages, très clairs, très précis, qui démontrent que le coaching interne, c'est avant tout des coachs et que nous sommes tous fiers de porter et développer ces compétences justement dans les nouvelles formes de travail liées à l'évolution du digital. Merci d'être venu ce soir et à très bientôt. Au revoir.